Comme chaque semaine, à cette heure-ci, nous sommes sur l'émission « Une heure en Palestine », aujourd'hui animée par Brigitte de Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pourrez retrouver cette émission lundi entre 11h et 12h, toujours sur Radio Galère. Vous pouvez également trouver nombre d'articles sur la Palestine, un agenda de tout ce qui se fait dans la région, sur le site de l'association. www.assopalestine13.org. Enfin, vous pouvez nous écrire par courriel à asso.palestine13@gmail.com. Alors, nous allons commencer par deux informations d'action qui se passent à Marseille ce soir. C'est un peu tard, mais c'est comme ça. La première manifestation se déroule dans quelques instants à 18h30 de rendez-vous à la Porte d'Aix pour aller jusqu'à la Joliette, manifestation qui vise à protester contre le transfert d'armes vers Israël à partir des ports français, plus particulièrement d'ailleurs du port de Fos pour notre région. Et en particulier aujourd'hui, 30 juillet, le navire Costco Shipping Pieces doit faire escale à Fos-sur-Mer et il transporte du matériel militaire à destination d'Israël. Donc, première manifestation ce soir, 18h30, Porte d'Aix. Nous allons maintenant appeler Mehdi Meziri qui va nous parler d'une autre initiative qui va se dérouler ce soir. Voilà, bonjour Mehdi.
Bonjour.
Voilà, nous avons appris hier soir que vous organisiez avec un club marseillais une action ce soir au profit d'une famille de Gaza qui vit à Marseille. Et nous voulions vous donner quelques instants pour pouvoir nous présenter cette soirée pour que si des Marseillais ont la possibilité de venir ce soir ou de vous soutenir financièrement, qu'ils puissent le faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lieu, l'heure et surtout l'objectif et le contenu de cette soirée ?
Oui, du coup, ça sera en collaboration avec le FLX Studio et la Boxe Populaire Marseille. Ce soir, ça sera une soirée de séminaire de grappling à but caritatif, comme vous l'avez dit, pour une famille qui est maintenant à Gaza. Qui a vécu à Marseille pendant assez longtemps et qui a été rapatrié à Gaza il y a à peu près 2 ans. Donc du coup, en coïncidant avec les événements du 7 octobre, à quelques semaines, quelques mois près. Nous voulons essayer de soutenir cette famille car elle est dans le deuil. Elle vient juste de perdre un élément de leur famille, une jeune femme dont je tairai les noms, mais qui aura besoin... d'aide financière pour tout un tas de différents projets. Du coup, le séminaire il sera dans les locaux de la Boxe Populaire ce soir à 19h.
Vous pouvez donner l'adresse ?
L'adresse, je ne l'ai pas, malheureusement. Est-ce que vous pouvez la donner, vous ?
C'est boulevard Camille Flammarion, c'est ça ?
D'accord, c'est ça.
Bon,
c'est
je vais essayer de retrouver l'adresse exacte, hein, parce que je ne l'ai pas sous les yeux.
Oui, une seconde, je peux vous la donner moi.
Et c'est à quelle heure ?
Et du coup, le séminaire, il sera à 19h, entre 19h et 21h30. Et j'enseignerai tout un tas de techniques en relation avec le grappling. Et tout ça sera pour but lucratif et j'espère que un maximum de gens seront là. Et pour tous les gens qui ne peuvent pas être là et qui veulent quand même contribuer à la cause... il y a une page PayPal que vous pouvez facilement trouver sur mes réseaux. Sur Instagram ou Facebook, il faut juste taper Mehdi Mezeri, donc Mehdi, Mezeri.
Alors, je
Et
répète, donc sur les réseaux, on peut retrouver toutes les indications sous votre nom précis, Mehdi, Mehdi, et Mesiri, Mezeri. Voilà.
c'est ça. C'est
Est-ce
ça.
que,
Et
juste
donc.
une petite précision, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait bien compris, c'est une famille qui a vécu à Marseille mais qui actuellement est revenue sur Gaza, ou c'est une famille qui était à Gaza et qui vit maintenant à Marseille?
C'est une famille qui est actuellement à Gaza, mais qui vivait à Marseille et qui faisait partie
D'accord.
d'un groupuscule antifasciste à Marseille et qui s'est mobilisé énormément, mais qui a dû repartir à Gaza. Et finalement, elle a
D'accord.
dû être restée sur place plus longtemps que prévu. Et du coup, elle est en état d'extrême détresse.
D'accord. Donc c'est vraiment donc l'objectif de cette soirée, qui n'est pas du tout une soirée sur la Palestine, hein, c'est une soirée, un séminaire de formation et d'information sur votre activité, sur votre sport, mais cette soirée a pour but de réunir aussi des fonds pour soutenir cette famille qui est dans Gaza en situation, comme toutes les familles là-bas, de grande précarité, je suppose.
Exactement, exactement.
Bon. Est-ce que, alors je ne sais pas trop, il reste donc juste à donner l'adresse, mais je la donnerai juste après cette information, ne vous inquiétez pas, parce
Donc
que je...
un passe Camille
Ah
Flammarion,
pardon,
13
alors
euros.
un passe Camille Flammarion. Hein.
C'est ça.
Donc ce soir, entre 19h et 21h30, c'est un séminaire. Vous pouvez redire le nom de votre
Alors,
activité, de votre sport?
c'est un séminaire de grappling de jiu-jitsu brésilien. Et du coup, oui, je vais montrer des techniques par rapport à ça. Et on va essayer de passer un bon moment et récolter un maximum de fonds pour cette famille.
Parfait. Ben écoutez, je vous remercie. J'espère que
Merci à vous.
voilà, j'espère que vous allez pouvoir avoir du monde et récolter un maximum d'argent, parce qu'on sait que vraiment Gaza en a besoin en ce moment. Voilà, je vous
Exactement.
remercie. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci Radio Galère. Merci.
Voilà, maintenant nous allons aborder un certain nombre d'informations récentes sur Gaza plus particulièrement. Informations peut-être un peu décousues, mais qui sont récentes et qui me semblent être importantes de connaître. Et j'aimerais commencer par une information qui peut paraître anecdotique, mais qui m'a semblé assez fondamentale et très peu diffusée par la presse. Il s'agit du sauvetage des archives de l'UNRWA, les archives de Gaza. Alors, c'est un article récent du journal Le Monde. Qui est vraiment particulièrement digne d'intérêt et qui relate cet événement. En effet, l'UNRWA, qui est l'organisme de l'ONU qui est en direction des réfugiés palestiniens dans 5 pays, et l'UNRWA est la seule instance qui possède les archives de toutes les familles reconnues réfugiées après la Nakba, et donc qui peut attester de leur origine géographique et de leur parcours. Utilisées à des fins administratives, ces archives documentent les circonstances de la tragédie, les noms des localités palestiniennes vidées de leurs habitants, les actes de violence, les déplacements. Ce sont des pièces à conviction de cette histoire dramatique. Elles prouvent le statut de réfugié de Palestine octroyé aux expulsés de 48 et à leurs descendants. Leur disparition aurait rendu impossible pour l'UNRWA, en service depuis 1950, de démontrer le lien des générations actuelles avec celle des victimes de l'exode forcé après 48. À Gaza, ce sujet est capital, puisque près de 70% de la population est réfugiée, donc originaire d'autres lieux de la Palestine historique. Alors, dès octobre 2023, l'UNRWA est contrainte, suite à un ordre d'évacuation de l'armée israélienne, de déménager ses locaux de Gaza, de Gazaville, au sud de l'enclave de Gaza. Mais avec les bombardements incessants, tout ne peut pas être transporté. Et les archives familiales, dont une faible partie avait été numérisée, restent sur place. La situation s'aggravant grâce à un employé local, Ces archives sont peu à peu transportées dans un entrepôt à Rafah. Les Israéliens ne sont contactés que pour sécuriser le convoi sans que leur soit indiqué de façon précise le contenu. Voilà. En effet, on sait que la droite israélienne a toujours souhaité la disparition de l'UNRWA et du statut de réfugié pour en finir ainsi avec la question du droit au retour stipulé par la résolution 194 des Nations Unies votée en 48. Donc plus d'archives, plus de preuves, donc plus de réfugiés et donc plus de droit au retour. Mais une fois que ces archives se sont retrouvées à Gaza, à Rafah, il était urgent de les faire sortir de la bande de Gaza, un bombardement pouvant anéantir à tout moment ses efforts de les préserver. Et en effet, d'ailleurs, l'entrepôt de Rafah a fait l'objet d'un bombardement en mars 2024, entraînant un mort et des blessés. Ce sera d'ailleurs le sort de très nombreux bâtiments de l'UNRWA, dont des écoles, des centres de santé. Alors, dans le plus grand secret, des contacts sont pris avec la Jordanie pour organiser l'évacuation des documents vers la Jordanie à travers le Sinaï. Ne parvenant pas à avoir le soutien de l'Égypte, l'UNRWA met au point un scénario incroyable. Pendant six mois, les employés de l'UNRWA font transiter les fiches familiales en les glissant par petits lots dans les bagages de ces employés internationaux qui quittent Gaza à l'abri des regards égyptiens. De l'autre côté de la frontière, à El Arish, une fois que les documents sont arrivés côté égyptien, l'armée de l'air jordanienne dépose des cargaisons d'aide humanitaire collectées par l'organisation caritative hachémite de Jordanie et destinées à Gaza. Les archives sont alors chargées sur les vols retour vers Amman, puisque les avions sont vides au retour. Et c'est à Amman, en Jordanie, où se trouve désormais le seul siège opérationnel de l'UNRWA. Le dernier vol militaire jordanien s'effectue le 21 avril 2024 et le 6 mai, soit 15 jours après, les chars israéliens envahissent Rafah et la frontière avec l'Égypte est définitivement fermée. Donc on voit vraiment que cette rapidité de l'UNRWA et cette inventivité pour sauver ses archives a été assez remarquable. Alors toutes les archives des réfugiés n'ont pas pu être évacuées. Des copies de passeports datant du mandat britannique, donc 1923-1948, et des titres de propriété sont restés dans l'enclave de Gaza, mais ils avaient été numérisés avant la guerre. Par contre, l'état du stock de photos, en grande partie numérisé, est inconnu. Et également, des archives institutionnelles, comme des correspondances qui n'étaient pas scannées, ont probablement été détruites. À Amman, les archives des familles de Gaza ont été numérisées, de même d'ailleurs que celles des réfugiés de Cisjordanie occupée, qui ont elles aussi discrètement quitté les bureaux de l'agence de Jérusalem-Est. Leur préservation est une victoire dans le combat pour la protection des droits des réfugiés et de leur mémoire. L'exploitation de ces documents permettra un jour de retracer l'histoire de ces villages palestiniens rasés en 48. Cette histoire, quelque peu rocambolesque, mérite d'être connue, tant ces archives sont importantes pour l'identité et l'histoire des Palestiniens. Puis, après ce premier point sur les archives, j'aimerais, comme souvent nous le faisons dans cette émission, parler de prise de position courageuse d'Israéliens sur la situation qui se passe aujourd'hui. Il semble effectivement important de mettre en avant des positions émanant de la société israélienne et qui déstructurent le discours du gouvernement israélien. Donc je citerai deux choses. D'une part, un article de Gideon Levy dans le journal israélien Haaretz du 28 juillet où il revient sur ce qu'il appelle l'affamement de Gaza, ce qui me semble beaucoup plus fort que la famine à Gaza. Il explique que le déni est légitime en Israël. il est tout à fait le déni de la famine, hein. Il est tout à fait cohérent avec le politiquement correct local. Il n'y aurait pas de famine et les descriptions d'un affamement délibéré de Gaza seraient une conspiration antisémite. Le déni actuel inclut un déni de l'intention génocidaire et de l'objectif pourtant transparent de déplacer la population de Gaza ailleurs. Cette attitude fait maintenant partie de l'opinion standard. Et Gédéon Lévy poursuit, c'est la façon dont cela se passe quand vous êtes à court d'excuses, de mensonges et de propagande. C'est ainsi quand vous devenez si perverti moralement que vous dites qu'il n'y a pas de famine, même quand les scènes en sont pleinement visibles. Il y a 50 nuances de déni israélien, et elles sont toutes également méprisables. Elles vont du fait de détourner les yeux à celui de les lever au ciel, de brouiller et de dissimuler, et de se mentir à soi-même. Mais elles ont toutes le même objectif, éviter le blâme, continuer à jouer les victimes, tout en nous chantant des chants de louange à nous-mêmes. Les négationnistes viennent de tous les horizons, et Gédéon Lévy fait référence à des propos de chercheurs, de médias, jusqu'au propos d'une femme qui lui a dit que les images de la famine sont du Yémen et produites par l'intelligence artificielle. Il poursuit, le déni a accompagné Israël depuis les jours de la première Nakba en 48, qui ne serait jamais arrivée et n'aurait été conçue que dans l'imagination de ceux qui haïssent Israël. Il a continué ce déni pendant toutes les années de l'occupation et de l'apartheid. Il n'y a aucune société au monde vivant dans un tel auto-déni, dont une grande partie est la faute de sa presse libre. Mais ce qui s'est produit ces dernières semaines bat tous les records de bassesse. Il n'y aurait pas de famine à Gaza. Après tout, il y a des camions attendant à la frontière. Les parents des enfants mourant de faim sont obèses. Pendant des années, j'ai pensé, dit Gédéon Lévy, que même si nous présentions aux Israéliens toutes les preuves horribles, ils les rejetteraient. La preuve est ici maintenant. Des images de la famine inondent les écrans de télévision et les journaux du monde entier, et les Israéliens la nient. En toute confiance, ils affirment que ces images sont truquées, qu'il n'y a pas de gens mourant de faim, qu'il y a des bananes, que 80 camions entrent par jour dans Gaza. Et ils concluent, c'est exactement ce que l'universitaire français Robert Forisson a fait. Il a affirmé que sur la base du volume des chambres à gaz, l'Holocauste n'a jamais eu lieu. Même si Haaretz n'est pas le média le plus lu en Israël, les choses se savent. Et pourtant, je trouve très courageux cette prise de position de Gédéon Lévy. Et il nous faut aussi parler de deux rapports conjoints, enfin de rapports conjoints de deux ONG israéliennes, B'Tselem et Physicians for Human Rights, deux organisations phares de la société civile israélienne à la pointe de la défense des droits humains. Leur rapport, publié le 28 juillet, donc là aussi tout récemment, et que commente Le Monde, dont nous reprenons les propos, conclut que l'armée poursuit à Gaza une politique intentionnelle de destruction de la société palestinienne, en d'autres mots, qu'Israël commet un génocide. Et pour que des auteurs israéliens parlent clairement de génocide, on sait ce qu'ils risquent. Le journaliste Jean-Philippe Rémy, correspondant du Monde à Jérusalem, a interrogé les deux directions de ces associations. À la question comment ils en sont arrivés à la conclusion qu'un génocide est en cours, ils répondent: Nous avons collecté toutes les informations disponibles sur les actions de l'armée à Gaza. Cela nous a amené à la conclusion qu'Israël mène de façon coordonnée et intentionnelle une politique destinée à détruire la société palestinienne dans la bande de Gaza. Tout ce dont les êtres ont besoin pour vivre est ciblé, tout ce sur quoi repose la société, en commençant par les habitations, les infrastructures. Un génocide, ce n'est pas seulement des tueries de masse. Ce qui s'observe à Gaza s'inscrit dans un processus de destruction coordonné et cohérent. Et en examinant les actions de l'armée israélienne à Gaza, le côté systématique de ces attaques contre le secteur de la santé, par exemple, nous a instantanément frappés. La liste est vertigineuse. Depuis octobre 2023, 300 employés du secteur de la santé de Gaza ont été tués. Près de 1500 ont été placés en détention. Les premiers ordres d'évacuation d'hôpitaux surviennent dès le début de la guerre en octobre 23. C'est le début d'une longue série de destructions semaine après semaine, avec des établissements attaqués, du matériel détruit, jusqu'à ce que le système de santé s'effondre totalement. Puis à la question « qu'est-ce qui vous pousse à penser que ces pratiques, si terribles soient-elles, entrent dans la catégorie du génocide ?» ils répondent « D'abord, le fait que la vie des Gazaouis n'a aucun poids dans les décisions prises par les dirigeants palestiniens, israéliens. Pardon. Constatant cela, nous avons consulté des experts de la question des génocides et du droit international, ou encore des spécialistes des droits de l'homme. Cela a donné lieu à de nombreuses réflexions, à des discussions difficiles, jusqu'à ce que nous arrivions à cette conclusion. Les actions de l'armée à Gaza correspondent à la définition de trois des cinq actes qui, commis dans l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux, sont constitutifs pour chacun d'eux du crime de génocide. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale, soumission intentionnelle à des conditions d'existence menant à la destruction physique. La question de l'intention est cruciale. Les déclarations de responsables israéliens, aussi bien politiques que militaires, concernant les objectifs de l'opération à Gaza, vont dans ce sens depuis le début de la guerre. Nous avons des quantités énormes de témoignages, de vidéos, depuis des hauts responsables jusqu'aux commandants de terrain et leurs hommes. Ils disent qu'il n'y a pas d'innocents et ils parlent de façon claire de détruire Gaza. Quand le journaliste du Monde leur demande si leur rapport ne risque pas de déclencher une tempête, ils répondent « Le 7 octobre, la société israélienne a subi une attaque d'une horreur incommensurable. Cela a créé un sentiment de menace existentielle pour tous les Israéliens. Je le ressens moi-même de manière très forte, dit cette personne. Mais cela a aussi constitué un élément déclencheur. Le régime d'occupation est intrinsèquement violent. Mais là, il obéissait à certaines limites. Le 7 octobre, ses digues ont lâché, et ce n'est malheureusement pas une particularité. Dans l'histoire des génocides, on retrouve souvent une peur existentielle chez ceux qui les commettent. Tout à coup, l'illusion que nous étions en sécurité s'est brisée. Nous avons réalisé que la violence, qui avait été cantonnée à Gaza ou en Cisjordanie, derrière les murs, invisible ou presque, nous menaçait désormais. Cela a engendré le sentiment, chez beaucoup d'Israéliens, que les Palestiniens, notamment ceux de Gaza, sont des ennemis et n'ont, au fond, pas le droit de vivre là. La société israélienne doit avoir la possibilité de se rendre compte de ce qui est en train d'être fait à Gaza. Des spécialistes de la question des génocides, notamment de la Shoah, Omer Bartov et Anos Goldberg, par exemple, sont arrivés à la même conclusion que nous et ils ont eu le courage de le dire. J'ajouterai que notre propre expérience nous oblige à parler ainsi. Tous les jours, nous communiquons avec des gens, dont des médecins, à Gaza, qui nous décrivent les horreurs autour d'eux, tout ce qui leur manque, les enfants affamés, les amputations sans anesthésie. Il y a une dimension théorique dans notre approche, mais elle est nourrie de cette fréquentation au quotidien de l'horreur à Gaza. Des personnes ont essayé de les convaincre de ne pas publier ces rapports. Ce n'est pas tant qu'ils sont en désaccord profond avec notre conclusion, mais ils ont peur. Peur des conséquences, des mesures de rétorsion, ou pire. Cela ne change rien à la nécessité de rendre ces conclusions publiques. Que faire face à un génocide? D'abord, en parler ouvertement, le dénoncer, l'appeler par son nom. Donc avant de poursuivre, nous allons passer à un premier morceau musical. Alors ce morceau musical est provient d'une chanteuse italo-palestinienne qui s'appelle de nom de chanteuse Terra, qui vit en Italie et qui, surtout après le 7 octobre, a produit des chansons beaucoup plus militantes. Et là, elle interprète l'hymne emblématique de la résistance italienne, Bella Ciao, résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui appelait à la liberté et à la fin du fascisme, et qui incarne parfaitement la manière dont Terra a réconcilié ses identités palestiniennes et italiennes, établissant un parallèle entre le passé fasciste de l'Italie et la lutte actuelle de la Palestine. Nous écoutons donc Bella Ciao de la pa chantée par Terra italo-palestinienne. Nous allons maintenant dialoguer quelques instants avec Régine de l'association MACPAL, qui ne se trouve pas dans nos locaux. Donc, nous allions dialoguer par téléphone, essentiellement au sujet de cette déclaration de Macron, repli par Noël Barrot aux Nations Unies le 28, sur la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Bonjour Régine, tu es en ligne?
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour Brigitte et bien sûr bonjour Sidi. Oui, écoute, comme beaucoup, les discours de Macron me laissent plus que perplexe puisque c'était une annonce qu'il avait déjà faite le 9 avril dans l'avion qui le ramenait du Caire. Cette reconnaissance aurait déjà dû intervenir lors d'une conférence franco-saoudienne. Au passage, je souligne quand même que faire une conférence avec un État dont le dirigeant a cautionné la dissolution dans de l'acide d'un journaliste est quand même quelque chose d'absolument étrange, surtout lorsqu'on prétend parler au nom du droit et du droit humanitaire et du droit humanitaire international. Mais bon, cette conférence n'a pas eu lieu, et vous le savez, parce qu'il y a eu l'attaque israélienne sur l'Iran à ce moment-là, et qu'il se tient aujourd'hui une conférence aux Nations Unies. Alors non plus avec Macron et le roi télé d'Arabie Saoudite, mais avec une délégation inférieure, dont Jean-Noël Barrot. Je reviendrai ensuite sur l'intervention de Jean-Noël Barrot, mais pour ce qui est de l'attitude de la France, eh bien, il faut revenir quand même sur ce que disait l'historien Vincent Lemire, qui disait il est temps de le faire parce que bientôt ce sera un cimetière, ou si ce n'est pas un cimetière, ce sera une terre vidée par le nettoyage ethnique. C'est exactement ce que l'on peut dire aujourd'hui de cette situation, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est le 24 janvier 1949 que déjà par un échange de lettres, il y a eu la reconnaissance de l'État israélien, sans pour cela fixer de frontières, puisque le signataire français disait que les frontières seraient définies par le plan les Nations Unies. Or, la France avait voté le plan de partage du 29 novembre 1947, et que ce plan de partage définissait clairement des frontières, c'est-à-dire qu'il y avait environ 53% pour l'État d'Israël. Il y avait une petite partie, environ 3%, pour ce qu'ils appelaient le corpus separatum, c'est-à-dire les lieux saints, Jérusalem, Bethléem, oui. Peut-être Nazareth, je ne sais pas, qui sont considérés comme des lieux saints. Et puis le reste, c'est-à-dire 43 ou 44% de l'État palestinien. Et rappelons-nous qu'à l'époque, dans l'État juif, il devait y avoir à peu près la même population, on va utiliser les termes de l'époque, de juifs et de non-juifs dans cet État, et que pour les dirigeants sionistes, qui ont longtemps tergiversé pour savoir s'ils allaient accepter cette proposition, eh bien, il était hors de question d'avoir moins de 80% de population juive dans cet État. Ce qui explique aussi en partie pourquoi il y a eu un nettoyage ethnique à partir de 1948, qui s'est poursuivi très longtemps et qui a continué à se poursuivre bien après 1952, puisque jusqu'aujourd'hui, il y a un nettoyage ethnique qui est en cours en Cisjordanie.
Voilà. Je reviendrai après. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce soit maintenant, alors que je crois que l'Assemblée nationale l'avait voté il y a très longtemps, que ça a été plusieurs fois évoqué par la France, mais jamais suivi d'actes concrets, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, le président Macron relance cette affirmation de reconnaissance de l'État de Palestine, d'ailleurs assortie, comme on le verra dans les déclarations plus précises de Jean-Noël Barrot, d'un certain nombre de conditions qui font qu'il y a peu de chances de toute façon que ça aboutisse. Est-ce que c'est simplement la pression des sociétés civiles, des médias et surtout la situation catastrophique qu'on ne peut absolument plus nier à Gaza et en Cisjordanie qui font que il a dû poser un acte pour contenter sa population civile, ou comment est-ce que tu expliques cela?
Moi, d'abord, j'explique aussi cela par effectivement les pressions qui s'exercent de la part des opinions publiques dans chaque pays. En France, il y a une immense majorité de la population qui veut non seulement l'arrêt, la reconnaissance de l'État de Palestine, mais surtout l'arrêt du génocide, ce qui veut que les gens puissent pouvoir manger, qu'il y ait un arrêt des bombardements, et la reconnaissance de l'État de Palestine ne va pas arrêter les bombardements et ne va pas permettre l'entrée de la nourriture. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, peut-être, mais on ne s'achemine pas sur des pressions ou des sanctions sur l'État d'Israël pour faire respecter le droit humanitaire international. Bien au contraire, on l'a vu en Europe, eh bien, tout le monde s'est couché pour ne pas prendre de sanctions contre cet État qui, je n'irai pas, viole le droit international, qui a massacré le droit international en compagnie de Trump. Voilà, donc c'est pour moi une diversion aussi à la suite de l'émotion qui a été soulevée par le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions des crimes israéliens. Et moi, je m'attends à une nouvelle tergiversation du gouvernement français et en particulier de Jean-Noël Barrot, dont le discours aujourd'hui m'a fait, enfin, ce que j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux, de son discours devant l'ONU, où d'abord il fait un amalgame insupportable entre le judaïsme et le sionisme. Il ose déclarer que, dans une espèce de logorée verbale, parler à la fois de l'attachement millénaire de la France au peuple juif, à l'État d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette assimilation alors que nous voyons partout dans le monde des juifs qui se lèvent en disant pas en notre nom, qui dénoncent le sionisme, en particulier aux États-Unis, mais je pense aussi à nos camarades de Tzedek et à ceux de l'Union juive française pour la paix. Mais il faut voir aussi en Belgique, en Allemagne, comment la population de ces pays juifs se démarque du sionisme. Et puis, la honte, quand on entend dire parler des liens étroits depuis des millénaires, des liens millénaires de la France avec le peuple juif, alors qu'en niant complètement la judéophobie, en nous niant complètement ce qui a pu se passer depuis des siècles et des siècles de répression, d'anéantissement, de volonté d'anéantissement, le judaïsme en France et en Europe, et qui, avec son apogée, avec les gouvernements Pétain-Laval, où la collaboration a d'abord retiré la nationalité française aux juifs récemment naturalisés, et ensuite a livré les juifs de France, je veux dire en général, qu'ils soient de nationalité française ou qu'on leur ait retiré la nationalité, en les livrant, y compris les enfants, ce que les Allemands ne demandaient pas.
Oui, puis il y a aussi, je pense qu'on peut aussi faire état de l'affirmation par Macron et par Jean-Noël Barrot du fait que la France a toujours été soucieuse du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'autodétermination des peuples. Peut-être qu'on peut regarder ce qui s'est passé en Algérie pendant des années, ce qui se passe en Kanaky, etc. Donc là aussi, il y a des affirmations, mais loin de la réalité, loin de ce que je pense pourrait... réellement être affirmé par la France. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me semble être vraiment des phrases prononcées comme ça sans les conséquences, c'est quand, du haut de l'ONU, de la tribune de l'ONU, Jean-Noël Barrot dit que surtout, d'une part, la France souhaite que d'autres pays européens s'engagent, mais surtout souhaite des compensations du côté des pays arabes qui sont en cours de négociation. Parce que, avec l'aide de l'Arabie saoudite, la France essaye de faire signer à une vingtaine de pays qui étaient présents à l'ONU un document qui poserait comme principe quelques principes, dont, entre autres, le fait de désarmer complètement la population de Gaza et la population de Gaza. Et d'exclure le Hamas de la gouvernance d'un futur État palestinien. Donc, je veux dire, à partir du moment où on affirme le droit à un peuple palestinien d'avoir un État, mais qu'on le subordonne à des principes qui ne sont absolument pas tolérables, je veux dire, en quoi un État palestinien autonome n'aurait pas le droit d'avoir des possibilités de se défendre alors qu'Israël aurait tous les droits. C'est ce qu'on appelle l'égalité des peuples. Enfin, ça me semble... Donc, je ne vois pas très bien comment les choses peuvent évoluer à partir de cette déclaration que tout le monde a saluée, mais moi, qui me semble quand même très, très problématique.
Alors, moi je ne dirais pas comme toi que tout le monde a salué, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer je ne dirais pas la méconnaissance, la stupidité de cette déclaration, et encore pire, celle de Jean-Noël Barrot. Juste un point historique quand même, comme je le disais tout à l'heure, le 24 janvier 1949, la France reconnaît l'État d'Israël. Le 29 novembre 1947, la France avait voté le plan de partage avec des frontières bien définies. Et maintenant, on ne parle plus que des frontières de 1967. Or, le droit international ne reconnaît absolument pas l'acquisition de territoires par la force. Ce qui veut dire que si demain, dans n'importe quel pays du monde, et en particulier, je pense sur l'Ukraine, Poutine va prendre des dizaines de milliers d'hectares de terre, eh bien on va le reconnaître parce que ça a été acquis par la force. On est en train de créer avec l'État d'Israël des précédents qui vont foutre en l'air le peu de droit international qui reste. Voilà, il y a cette chose-là. Je voulais aussi ajouter que depuis 1988, lors du congrès d'Alger, l'OLP a reconnu l'État d'Israël, lequel n'a jamais reconnu l'État de Palestine, et même lors d'Oslo, qui était une gigantesque farce, l'État d'Israël a reconnu l'OLP. Pas du tout l'État palestinien, et aujourd'hui encore, plus l'entièreté du gouvernement israélien, mais plus de 70% de la population, disent clairement qu'ils ne veulent pas d'un État palestinien et qu'ils sont pour l'éradication du peuple palestinien, soit à travers un génocide, comme celui en cours dans la bande de Gaza, soit avec le nettoyage ethnique en cours à Jérusalem, en Cisjordanie et bien sûr à Gaza. Donc pour revenir à ta question initiale, c'est bien de dire que face aux pressions qui montent partout dans le monde pour dénoncer le génocide, demander l'arrêt des bombardements, demander l'ouverture des postes frontières pour que puisse rentrer la nourriture dans la bande de Gaza et que tout s'arrête et qu'il y ait une solution juste et durable, eh bien, on a choisi à la fois ce discours pour faire patienter, cette espèce de discours lénifiant, allez, on va patienter, on va attendre septembre, une conférence aux Nations Unies, on va essayer d'entraîner d'autres gens, on met des conditions. Et puis on ne fait rien, on va faire un largage humanitaire. Parce que là, c'est aussi ça pour calmer l'opinion publique. Un peu partout dans le monde, il y a une majorité des gens qui exigent la reconnaissance de l'État de Palestine, qui exigent l'arrêt des bombardements, qui exigent l'arrêt du génocide, le retrait des troupes israéliennes, et que la nourriture puisse arriver à Gaza. Et Macron, pour moi, fait une mesure de diversion.
Voilà. Ouais, mesure de diversion et mesure certainement aussi de politique interne par rapport à la situation actuelle en France. Je pense que ça joue aussi. Quoi.
Mais... Alors, il y a une des choses aussi qu'il demande, c'est évidemment le désarmement du Hamas. Et puis, il demande, donc tu l'as dit, la reconnaissance par l'État de l'État d'Israël par les autres États arabes, et puis par d'autres États arabes, et puis l'organisation d'élections en 2026, par l'autorité de Ramallah. Moi, je n'appelle même plus cette autorité l'autorité palestinienne, parce qu'elle n'a rien de... Alors, l'autorité nationale palestinienne, ça fait très longtemps que le mot national a disparu, on va dire l'autorité du canton de Ramallah, qui est malheureusement aujourd'hui une autorité reconnue par la plupart des Palestiniens comme un agent de sécurité de l'État d'Israël. C'était bien le rôle qui lui a été dévolu. Et on sait tous qu'aujourd'hui, les ministres palestiniens, le même Mahmoud Abbas, ne peut agir sans l'aval d'Israël. Donc c'est un gouvernement totalement otage du gouvernement israélien. Et pour terminer, je dirais que tout ce qu'ils mettent en place, eh bien, c'est l'assurance du fait qu'on ne peut aboutir à une non-reconnaissance de l'État palestinien. Par contre, si reconnaissance il y a, ce sera toujours utile sur le plan juridique, car cela donnera à l'État de Palestine, quel que soit son gouvernement, une légitimité pour agir au niveau des instances internationales sans être représentée. C'est l'admission pleine et entière aux Nations Unies, c'est la possibilité d'intervenir directement auprès de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale sans être représentée par un autre État membre. Voilà, c'est la seule chose que ça peut apporter. Par contre, l'exigence que l'on doit maintenir, c'est l'arrêt du génocide, l'arrêt du nettoyage ethnique et puis des sanctions. Oui. Aujourd'hui, il n'y a aucune sanction contre l'État d'Israël. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne continuent à livrer des armes. Et aujourd'hui, quand on entend dire que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne vont effectuer des largages de nourriture, on a envie de se tenir les côtes.
Surtout l'Allemagne qui dit qu'elle pourrait peut-être reconnaître, sauf si, au dernier moment, Israël donnait quelques garanties. C'est exactement ce qui s'est passé.
C'est la Grande-Bretagne qui a dit ça.
La Grande-Bretagne, tu as raison, l'Angleterre. Oui. Mais c'est exactement comme quand il a été question d'un vote à l'Union européenne pour suspendre les accords entre Israël et l'Union européenne. Et comme Israël, au dernier moment, a lâché un truc, du coup, on n'a pas signé parce que, ils ont donné des gages comme quoi ils allaient s'améliorer. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. On lance des bouées, et au dernier moment, parce que Israël va dire un mensonge une fois de plus, parce qu'en fait rien ne change, comme quoi ils ont fait rentrer tant de camions alors qu'il semblerait que ce soit absolument pas le nombre qu'ils affichent, etc. À ce moment-là, tout le monde recule et se plie devant Israël, quoi.
Ce qui est effrayant, Brigitte, ça va tout à fait dans ton sens, c'est qu'il y a des centaines de camions qui patientent en Égypte pour rentrer dans la bande de Gaza et que personne ne fait pression sur l'État d'Israël, n'impose à l'État d'Israël, sous peine de sanction, d'ouvrir le passage. Parce que moi, je veux bien attaquer l'Égypte. Al-Sisi est un complet collaborateur de l'État d'Israël. Il est complètement sujet aux États-Unis parce que sans l'aide américaine... Trump a supprimé l'aide américaine à tous les pays sauf à Israël et à l'Égypte. C'est tout dire. L'Égypte ne tient que grâce à l'aide américaine. Donc il n'est pas question, Al-Sisi ne lâchera jamais quoi que ce soit. Par contre, il ne faut pas dire que c'est Al-Sisi et que c'est l'Égypte qui maintient les clés de Rafah. Ce n'est pas vrai. Tout ne peut rentrer dans Gaza que si Israël accepte que ça rentre.
Et en tout cas, ce serait bien moins dangereux et beaucoup plus efficace si au lieu de larguer par les airs un certain nombre de colis alimentaires. Si les camions qui sont prêts depuis des mois et des mois, avec sans doute beaucoup d'ailleurs de marchandises périmées, pouvaient rentrer à Gaza et être distribués par le réseau des ONG et de l'UNRWA en particulier, qui sait comment faire, qui a, dont c'est la pratique, qui a du métier, qui connaît le terrain et qui certainement serait beaucoup plus légitime aux yeux de la population gazaouie. Mais ça, on n'entend pas du tout qu'il y ait des pressions là-dessus, tu as raison, pour que les frontières soient rouvertes pour laisser passer les camions. Quoi.
Oui. Moi, je suis absolument éberluée par ça. En tout cas, alors, surtout qu'on vient d'avoir une information qui vient de la presse israélienne qui dit que l'armée israélienne a détruit le chargement de 1000 camions sous prétexte que c'était périmé. Donc on laisse périmer des milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'euros ou de dollars de nourriture, alors que les gens sont en train de mourir de faim de l'autre côté. L'armée israélienne interdit aux médecins de rentrer du lait maternisé. C'est bien une des conceptions, des définitions du génocide, de la volonté d'agir sur les générations à venir, de limiter les naissances. Voilà, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à entendre quand je vois qu'on m'interdit de rentrer du lait maternisé. Pourquoi? C'est le Hamas qui va boire le lait maternisé? Non, c'est pour tuer les enfants.
Enfin,
avec...
même avant... Moi, je me souviens bien avant l'octobre et même, donc je ne sais pas si c'était même pas pendant l'occupation ou juste après l'occupation, Israël interdisait de faire rentrer du chocolat, des ballons pour les enfants. Enfin, il n'y avait absolument rien de rationnel là-dedans. Donc,
tout à fait.
Pas étonnant, quoi. Hein, voilà. Non, moi, je pense
que l'on fait juste sur les parachutages. On a vu, lorsque ça s'est fait, on a vu que ces parachutes, d'abord, ça tombe n'importe où. Ça ne tombe pas auprès des gens ou des organisations qui pourraient le distribuer. Ça provoque des affrontements, parce que quand on a une population de 2 millions de personnes qui est affamée, ce sont certainement ceux qui sont les plus résistants qui vont pouvoir s'approcher de ces palettes et de ces colis, qui vont pouvoir les prendre. Ça va faciliter les violences interhumaines. Ça va surtout permettre aux plus violents, aux plus forts, de s'approprier un certain nombre de colis et éventuellement de le revendre, donc faciliter le marché noir. Sans parler des personnes qui seront tuées par les bombardements, ou comme la dernière fois qu'il y a eu ce type de par les bombardements, par les parachutages, et la dernière fois quand c'est tombé en mer, il y a des gens qui se sont noyés pour aller les récupérer. Donc toutes les ONG le disent, c'est absolument invraisemblable d'imaginer comme solution à ce génocide, à cette famine, de faire des parachutages, et ils vont tous y mettre. Ça va coûter des centaines de milliers d'euros, pour un résultat totalement négligeable.
Mais ça donnera bonne conscience à nos dirigeants.
Voilà, c'est pour ça que nous, on doit...
On ne va peut-être pas trop tarder à... Moi, je voudrais juste rappeler quand même que le 18 septembre 2024, il y avait 124 États, dont la France, qui ont voté une résolution exigeant qu'Israël mette fin à l'occupation et à la colonisation du territoire palestinien avant le 18 septembre 2025. Donc on est à moins de 2 mois de cette échéance, et cette résolution était assortie de nombreuses obligations pour les États qui permettaient de faire pression sur Israël pour qu'il respecte enfin le droit international. Or, à 2 mois de l'échéance, la France n'a envisagé aucune des mesures qu'elle doit prendre pour respecter cette résolution qu'elle a pourtant votée. Donc je crois qu'il faut remettre la déclaration de Macron sur la reconnaissance d'un État palestinien à sa juste valeur, c'est-à-dire que je pense que ça va faire un plouf total et que, voilà, au mieux ce sera dit, mais ce ne sera pas suivi du tout d'effets et de conditions précises par rapport à Israël. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'emballe trop avec effectivement ce genre de décision, surtout qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait des positions tellement différentes demandées entre les deux États qui ne seraient pas considérés comme deux États à égalité, ayant chacun droit à leur sécurité des deux côtés, et en exigeant qu'un des côtés soit désarmé, qu'un des côtés n'ait pas le droit de choisir sa direction politique, etc. Donc voilà, moi je crois qu'il faut remettre un peu toutes ces déclarations à leur juste place. Hein.
Voilà, moi juste, si j'ai 30 secondes, rappeler que le 19 septembre, nous projetterons au JPTIS le dernier film de Iyad Alastal qui s'appelle « Pour l'honneur de Gaza » et on espère vraiment qu'il y aura des centaines de personnes qui seront présentes. Notez bien la date, les auditeurs, 19 septembre, au JPTIS, on n'a pas encore l'heure, mais on va bien communiquer là-dessus. Et puis, rajouter simplement que si nous voulons être efficaces et faire pression, c'est l'unité de toutes les forces qui, à Marseille, sont pour l'arrêt du génocide, sont pour la justice et pour la paix, et qui ne vont pas se laisser embourber dans les discours de Macron. Donc soyons unis et avançons ensemble pour mettre fin à cette horrible tragédie qui frappe le peuple palestinien. Les crimes israéliens, ça suffit maintenant. Voilà.
Merci et de m'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup, Régine, pour cet échange que nous avons pu avoir pendant cette émission. Voilà, donc nous allons terminer une heure en Palestine. Par peut-être, si nous avons encore le temps, peut-être encore juste deux points d'information. Le premier, c'est quand même de nous réjouir tous de la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On va pas revenir évidemment sur le parcours de ce militant libanais qui a toujours défendu la cause palestinienne et dont nous avons très souvent parlé dans cette émission. Mais quand même, on peut se réjouir qu'après 41 ans de détention, et alors que pour la justice française, il était libérable depuis 1999, ce n'est que la semaine dernière, le 25 juillet, qu'il a pu enfin quitter la prison de Lannemezan en étant immédiatement expulsé vers le Liban, sa terre natale, mais expulsion qu'il avait toujours acceptée depuis très longtemps. Il restait à 74 ans le plus ancien prisonnier politique de France. Et je crois qu'on peut vraiment, l'association France-Palestine Solidarité lui a, par un communiqué de sa présidente, a salué sa libération, qui est vraiment une victoire du droit et de la justice, victoire d'abord de lui-même, qui a su garder toute sa conscience politique et que son engagement auprès du peuple palestinien, il l'a payé vraiment très cher par 40 années d'enfermement. Et puis aussi le soutien du mouvement de solidarité, qui a certainement joué un rôle important, mais il a quand même fallu 11 demandes de remise en liberté pour que Georges Ibrahim Abdallah soit enfin libérable. Voilà. Et il a été accueilli de façon extrêmement chaleureuse tant à l'aéroport de Beyrouth que dans son village natal de Kobayat dans le nord du Liban. Voilà, donc ça c'était la première information peut-être qu'on puisse donner. Et la deuxième, c'est évidemment qui est une information beaucoup plus négative, beaucoup moins positive, c'est l'arraisonnement par l'armée israélienne du bateau de la nouvelle flottille vers Gaza, le bateau le Handala, puisque les navires et ses occupants sont arrivés à Israël ce dimanche après avoir été interceptés par l'armée israélienne alors qu'ils se dirigeaient vers Gaza avec de l'aide humanitaire. Et à bord se trouvaient des militants de 10 pays différents, dont deux députés de LFI et deux journalistes de la chaîne Al Jazeera. Certains de ces passagers ont accepté d'être expulsés immédiatement d'Israël, mais d'autres ont refusé et entamé une grève de la faim pour protester contre leur détention illégale, puisque, évidemment, ils ont été interpellés dans des eaux internationales en violation du droit international. On peut rappeler que le Madeleine, un autre bateau d'une autre flottille, avait été envoyé par la même organisation en juin et avait également été intercepté. Pour ceux qui veulent protester et soutenir ceux qui sont toujours détenus en Israël, des courriers peuvent être adressés au ministère des Affaires étrangères pour faire pression sur la France fasse pression sur Israël pour la libération des détenus. Voilà, ça a fait en fait plus d'une dizaine d'années que de telles initiatives sont prises, toujours sans succès, mais elles permettent d'une part de témoigner auprès de la population gazaoui que celle-ci n'est pas oubliée dans le monde, et puis de démontrer clairement les violations du droit international par Israël. Voilà, nous allons donc terminer. Nous vous rappelons que ce soir, il y en a une qui est déjà commencée. C'est à 18h30 la manifestation qui allait de la Joliette de la Porte d'Aix à la Joliette pour dénoncer le fait que les ports français continuent à accueillir des bateaux qui transportent des armes vers Israël. Et la manifestation qui a lieu à 1 Passe Camille Flammarion, de 19h à 21h30 pour récolter des fonds pour une famille gazaoui, mais on sait qu'une famille, ça fait aussi vivre tout l'entourage, une famille gazaoui qui est en grande détresse matérielle, psychologique, affective, etc. en ce moment. Voilà, vous pouvez réécouter cette émission le lundi à 11h et nous nous retrouverons, nous essaierons d'assumer un peu les différents mercredis, même pendant l'été. Voilà, au revoir, bonne soirée.
Bintish Shalavi.